Rencontre avec les poètes de chez nous, une émission proposée et animée par Patrick Matelier-Guinlay. Eh bien, bonsoir chers auditeurs de Campus FM, bienvenue sur 96.7 pour notre rendez-vous hebdomadaire de poésie. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un habitué, je pourrais presque dire, puisque c'est la troisième fois que nous l'invitons. Il s'agit d'Éric Pezeau, qui a été récemment primé pour un texte qui s'appelle « Mi pays moins ». Il a reçu le prix spécial de Calbaslore 2006. Et il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'il reçoit la récompense de Calbaslore, parce que si c'était la première édition dans la Caraïbe, ce n'était pas la première édition de Calbaslore. En effet, en 1999, à Paris, il avait déjà reçu le prix Calbas pour un texte qui s'appelle Moon la Ciseau.
Oui, tout à fait, c'est en 99. Et Moon la Ciseau, ben, c'était dans le cadre de la journée internationale autour du créole, à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Donc oui, c'est pas, en fait, disons que je me sens beaucoup plus investi, je me suis senti beaucoup plus inspiré aussi à participer dans ce tirage de parole organisé à l'attention, ben, de tous les créolophones de la Caraïbe ou d'ailleurs, quoi.
Alors, on va faire un petit rappel de ton curriculum pour les auditeurs. Tu es né en 1963 à Rivière-Pilote.
C'est bien ça.
Et au collège Jacques Roumain, déjà un prix de poésie en 1978. Ça commence fort.
Ça commence bien.
Avec un professeur pour lequel tu as un respect particulier, ouais. Monsieur Joël Beuze.
Ouais, tout à fait. Une affection très profonde, une amitié qui date de pas mal de temps également. Et puis, comme tu l'as dit, un respect particulier.
Un texte qui s'appelait Toile Noire.
Oui, tout à fait. Un texte qui faisait référence un peu à la situation du pays Haïti, pour lequel j'ai une attention et aussi une affection toute particulière. Toile Noire, à l'époque, c'était ma vision d'Haïti, très ténébreuse. Bon.
Et alors, tu remets ça en 1980 avec un poème qui s'appelle Haïti cette fois-ci, oui. Toujours Haïti, où tu reçois prix de la Bibliothèque centrale de près de la Martinique.
Oui, encore un beau souvenir, même si la source d'inspiration reste la même, toujours Haïti, mais avec quelque chose de beaucoup plus radical, dans le sens où j'avais commencé à tisser des liens avec des frères de la communauté haïtienne en Martinique, et où j'ai découvert un petit peu à travers leurs récits, leur quotidien, parce que Toile Noire en 78, bon, j'avais une vision très lointaine d'Haïti, je me faisais une idée à travers les informations, mais là j'avais des témoignages vivants, et ça m'a permis d'entrer encore plus profondément dans ma quête, dans ma recherche de je dirais, d'équilibre fraternel par rapport à ce pays. Parce qu'on peut parler, on peut bâtir des relations d'affection, mais avoir ces témoignages-là, ça m'a permis de toucher, non pas du doigt, ni des yeux, mais avec le cœur, d'entendre ces récits si poignants d'hommes et de femmes qui, dans l'espoir de revenir ou dans l'espoir d'aider leurs parents, sillonnaient les champs de canne en Martinique. Mmh. Ne refusaient pas un travail, quel qu'il soit, quelle que soit la difficulté de la tâche. Donc, Haïti, justement, j'ai pu toucher du cœur cette réalité-là. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai pu nommer le texte Haïti. Ouais.
C'est en fait une empathie avec la souffrance de ce peuple, une empathie avec leur misère sociale à cette époque-là. Et peut-être aussi le symbole, parce que Haïti était quand même la première république indépendante et noire de la Caraïbe.
Oui, absolument. Mais ça va.
À travers toutes les tribulations qu'ils ont pu subir par la suite.
Tout à fait.
Mais ça a été les premiers à se libérer et à devenir une république autonome.
Oui, tout à fait. Mais au-delà de l'empathie, c'était vraiment une amitié, un amour très profond, une compassion sans faille. Et d'autre part, c'est vrai qu'il y avait cette compassion, cette proximité, cette volonté de partager les aspects négatifs, mais aussi tout ce qui était positif. Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que la misère socio-économique d'Haïti n'a pas pour autant jugulé ou tué la verve culturelle. Au contraire, il y a une crise jusqu'à au jour d'aujourd'hui, Haïti, c'est une terre de création qui est sans cesse en effervescence. Et je dois dire que il me semble que la souffrance d'un peuple, la souffrance qu'un peuple porte, lui permet, à travers son imaginaire, de se projeter, dans des avenirs meilleurs. Qui enrichissent incroyablement leur créativité.
C'est là on aborde en fait le rôle du poète dans la société. Il y a pas de création poétique sans souffrance, ressenti de la souffrance. Et c'est vrai que Haïti nous a donné et nous donne encore de très grands poètes. Bon, Castéra, Trouillot, pour en citer quelques-uns, mais il y en a tout un tas d'autres.
Ah oui, tout à fait.
Et ce rôle social du poète, qui est donc de faire connaître, de faire prendre conscience aux gens de l'injustice, de ce qui ne va pas, non pas seulement de chanter les beautés de la nature, mais vraiment de plonger dans l'humain, dans l'émotion, dans la sincérité, dans le vrai.
Oui, tout à fait. J'étais en train d'écouter un poète parler, là.
Bien sûr. Alors, ensuite, donc, tu pars faire des études de lettres modernes en France, où tu vas demeurer pendant une vingtaine d'années, à peu près.
Absolument, ouais.
Et puis, tu publies en 1999 est-ce qu'on peut appeler ça un roman ?
Je dirais non.
Un récit.
Voilà, un récit. Ça se rapproche beaucoup plus d'une nouvelle.
Ouais. Une nouvelle assez longue, quand même.
Oui, absolument. Absolument.
Une nouvelle qui s'appelle Marie Noire, donc parue chez L'Harmattan.
Ouais.
Et puis, dans l'intervalle en 2002, te voilà de nouveau primé à l'occasion de Saint-Pierre 2002, de la commémoration donc, de l'éruption de la montagne Pelée, avec un texte qui s'appelle Le jour se lève.
Oui, absolument.
Puis, tu publies Passeur de rive, qui est un carnet poétique.
Un carnet, ouais.
Un carnet poétique en 2003 chez L'Harmattan. Et ton dernier bébé qui s'appelle Portraitude, donc en 2005.
Ouais, tout à fait. Portraitude.
D'ailleurs, comme ça, en passant, hein, je signale que tu présentes Portraitude demain, donc vendredi 10 novembre, à partir de 18h30 à la médiathèque de Trinité. Et j'invite nos auditeurs vivement à se déplacer. C'est gratuit, c'est à la médiathèque de Trinité pour venir écouter la présentation de Portraitude.
C'est-à-dire qu'on va faire, enfin, c'est un exercice que j'aime bien partager. Ce sera une sorte de ronde à travers, je dirais, l'univers poétique d'Éric Pezeau. Et l'idée, c'est de un petit peu remonter dans le temps à travers des extraits de lecture, de notamment Marie Noire. Et puis tu as cité certains textes, notamment Toile Noire, etc. Donc là, justement, avec deux complices, Roland Pavilla et puis Jocelyne Fortuné, bon, on va
que nous connaissons bien ici parce que ils sont venus à ce micro. En tout cas, Jocelyne Fortuné est venue présenter ses textes. C'est une plasticienne aussi de grand talent.
Tout à fait. Donc là, nous allons créer une sauce, quelque chose d'amical. Et j'invite tous ceux qui ont la possibilité de venir, partager un petit moment avec nous, histoire de se donner un peu de courage, un peu de se consoler mutuellement, de se sourire, de se parler. Et puis... laisser les mots pénétrer au fond de nous-mêmes afin que nous nous sentions un petit peu mieux au fil du temps, au fil du déroulement, je dirais, du soir, de la nuit. Voilà, entrer dans un univers sympathique, pathétique et poétique.
C'est important, hein, ce côté mise en espace pour toi. Ça vient un peu de ton amour du théâtre. Tu as eu l'occasion de fréquenter la compagnie de Luc Saint-Éloi.
Oui, tout à fait. Sans vraiment, je dirais, être moi-même acteur ou comédien en ayant pris part à l'une de ses créations. Mais c'est vrai que la mise en espace, la mise en scène, c'est un exercice que j'affectionne particulièrement. Et pour moi, je ne m'imagine pas rencontrer des gens, échanger avec des gens en me mettant juste derrière une table de façon conformiste, un petit peu comme on a l'habitude de voir. Moi, je ne suis pas intellectuel. Enfin, je suis avant tout quelqu'un qui aime la communication, les échanges, les beaux échanges. Donc, ça veut dire, pour moi, il faut créer quelque chose pour que les gens qui repartent aient quelque chose dans la tête et que ça leur donne peut-être l'envie aussi de créer des choses, peu importe la façon, le mode de création. Quoi.
Alors, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'entendre sur RFO, ou lors de cette soirée magnifique de la remise des prix Calebasse, et on va y revenir sur cette soirée, est-ce que tu peux nous donner mi pays moins?
Je crois vraiment qu'on a eu affaire à des professionnels, des gens qui ont pris le temps d'entourer tout ce qu'ils ont organisé de sérieux, de professionnalisme. Et puis aussi, moi j'ai ressenti un engagement très profond de la part de tous ceux qui avaient organisé cela. Ah ben oui, mi pays, moi, qui m'en est, mon papa partager ça et puis c'est mon maïla à côté noir. Les trains étoiles qu'a couru la ronde, avec faisier doux bas ciel, qu'on pipiri qui n'y tchè poids doux. Les soldats qu'a bris de bois, qu'a prend la garde à la montée en bas tout de bois, avec commencé claironner à doux maman. Les bêtes a fait qu'a si mes graines diffé à la vol, en mitant sans de la nuit. Ha! Mi pays moi. C'est la même pour faire mes yeux qu'on wagogo qui prend l'eau des figues en mou, et que va l'écouloukoutak paysa à la flouze. Tout douce, tout douce, tout douce. Mi pays moins. d'abord, qu'on voit que biche qui a sauté code dans la cour roche carré. C'est là pourtant flit bambou mousazé en bas feuille boisicac. L'aliment l'univers qui a chal viré, qu'on chalma qui a bolié en bas chargement ombli. Mais c'est là pourtant clarinette bois qu'empêche, qu'a chillé l'âge la tête, depuis non, ni, non, non. Oui, mes amis. Tout comme à la pampan l'homme, ploum ploumé qu'on jojo majolé, qu'a descendu courir la ronde d'amier, samedi gloria, la fête en s'dalé. Mais, m'a pas oublié. C'est là pourtant chacha boiti bombe, pétaillé nos oreilles la rivière. C'est là même pour caler fal l'estomacou, exciser sigjik au sol, l'amour poté bar. Tout douce, tout douce, tout douce. Mi pays moi. Mais qui m'a foutié ça 7 fois? Tu m'a fille à paix 3 fois. Les m'a contré et puis compé la sous kako, syndicat moi. Qui te cisé à sous 3 roches doulet en mitant la rivière, grand rivière. Kaplere en bidim la peine qui dépotcholé toute la vaisselle qui te ka dormi en didan koi. Assiré mes amis. En maniement grand grec, menti mentait, comploté manigance en bas jol pepla, pour boire de l'eau à sous d'eau de l'eau pays. Agoulou, pas qu'à les jolou, hein. Vendredi 13 barons cimetière, bas moins li bonjour, en mi-temps croisé baron en commune Saint-Lys. Yo prend descend bas de l'enmer, collé tête et puis épaule, à dans grand causement, qui prend couler rat et puis chat, commencé baïbal. Yo te le prend décidement potolan pour barrer chimen jab qui les maillé derrière la porte l'église et puis fimanze kayas commes douvant pour comeyen la pli belle en bas la paille. En vieille femme sans dents fouyaya compagnie à la con Marie Pierre la simène sainte prend parole pour dire maman il a puis sa zot ka fouyé tout let zaka coulé en nezot d'accord. Mais Kachile Pouchi et jeune Mona monté à sous donniage au galop pour faire vibolo tamboua, pétaillé dans oreille les gros modans jusqu'à temps jol volcan dégorgé. Mi pays moi. Pays a ka décati en misi nous ka prend sommeil devant Crisocal et Bradjack. Moi, m'en passé les yeux moi tourné blé. Tout pendant yon de trois terres rapportées qu'a passé l'an mai en fond d'oc jardin pays a. Pays moins maroté en fêteille la vie a. Mi pays moins. Mais pays moins. Mi pays moins.
On espère que tous les jeunes comprendront ce message. Ce message d'amour et de respect.
Ben, c'est espéré.
Pour la terre, pour l'eau.
C'est espéré, moi, j'ai espéré ça.
Pour l'eau, parce que ça, c'est très important. Mm-hmm. Prix spécial, donc, Calbaslor 2006.
Mm-hmm. Mi pays, moi.
Bravo. Bravo, merci. Monsieur Eric Pézot.
Merci, Anchaï.
Alors, la musique du créole, la parole du créole. Déjà, ce concours, c'était un succès parce que 180 poèmes, donc une réponse vraiment massive, parce oui, que ouais. 180 poèmes, c'est massif, et puis une qualité de poèmes présentés en créole, des poèmes de tous horizons.
Absolument.
Haïti à travers New York.
Non, mais même Haïti en Martinique.
Haïti en Martinique.
Ouais.
Cette Guadeloupe, ouais. Puisqu'on a reçu Alain Caprice la semaine dernière.
Ouais.
Un très beau succès et plein d'espoir pour les années à venir, pour cette langue créole qui n'est pas morte, que elle ne mourra pas tant qu'on la fera vivre.
Mais, belle parole. Belle parole. Maka pris en créole parce que c'est important aussi. Maka kwe ki c'est un bel commencement. Bel commencement, Calbaslo. Premier fois, il a fait tirage parole dans la Caraïbe là. Mais premier fois, maka kwe, pas dernière fois. Donc, en pile sérieux, en pile sérieux, en pile conviction, en pile respect, par rapport à tout ça m'entend, par rapport à tout ça m'en ouais, en disant tirage parole t'as là, en disant organisation cérémonie en tout. Donc moi m'a ka quoi en disant créole là, et c'est pour ça m'a matché créole, parce matché qui a permis de quitter trace. Donc rouleau bas créole là, soit ya, rouleau bas.
Alors, justement, la langue créole, pour toi, c'est quelque chose de fondamental. Ça fait partie de l'identité d'un poète caraïbais, hein, d'un poète martiniquais, guadeloupéen, haïtien.
Absolument.
C'est notre identité dans cette langue-là.
En tout cas, moi, je tiens absolument à dire que on doit utiliser nos richesses, on doit utiliser ce qu'on a. Le créole fait partie de moi et je crois que il y a un amour sérieux, respectueux de cette langue qui fait que je veux la nourrir aussi. Pour la faire vivre, il est important que les gens d'art, les gens de les créateurs puissent faire vivre cette langue-là à travers ce qu'ils font. Mais il est important aussi que cette langue-là se fixe. C'est-à-dire qu'à partir d'une grammaire, à partir d'une syntaxe, l'important, c'est que nous faisons partie, les poètes les écrivains, les essayistes, enfin peu importe, tous ceux qui mettent la main pour travailler, pour porter leur pierre et faire en sorte que cette langue-là se fixe, puisse s'enrichir par les différentes productions en créole, eh bien je me dis il faut qu'on s'y mette. Dans la mesure où le lexique va s'enrichir avec les diverses générations, avec les différentes expérimentations, les divers échanges que l'on peut avoir. Et de même qu'on peut voir dans un temps pas si loin que ça, des gens qui sont des visiteurs, on va dire des visiteurs, qui ont pu observer avec leurs yeux, leur esprit, leur cœur, la Martinique. Je remonter en parlant du père là-bas, des gens connus qui ont laissé des écrits, des travaux, Lafcadio Ernst et compagnie. Ces gens-là aussi ont participé à leur manière à la genèse de la langue créole. Et je crois que quand je dis que quelque part je suis un écrivain créolo francophone, je m'entends, je ne suis pas communautariste, je m'en pas fait mais encore moins Adam en réalité créole en disant ben c'est ça m'appartient. Non, au contraire, je crois que si je me réfère par exemple à l'histoire de la langue française, ben tous ceux, que ça soit à travers les expériences des invasions, c'est-à-dire une langue, un pays subit des influences, et ces influences-là font que ça nourrit aussi, ça nourrit la langue. Donc moi je dis que dans un sens, être un des artisans qui quelque part vont engrosser cette langue et lui donner de multiples une descendance multiple et diverse, eh bien je mets un point d'honneur à le faire. Je le fais avec plaisir, je le fais avec jouissance, et mon café aussi, mon café et tout, et puis en fond chez moi, l'espoir qui c'est maman et la ravinian yotou yoke porté nourriti balanglan.
Le poète est un fécondeur de la langue.
Ah oui, absolument,
ça c'est une belle formule.
Je crois que de même que les poètes ont cette magie à trouver ou à dire avec des formules ou des gestes, avec des trouvailles, je dirais, des mines, des minerais qui leur sont propres. Eh bien, de même, je crois que si je me fais jongleur de mots, c'est pas pour qu'on me voie uniquement, pour qu'on dise ou qu'on me nomme. Quand on me nomme, j'entends quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus lointain que juste la renommée ou la personnalité, etc., la popularité. Non, moi, ce que j'aime, c'est quand j'écris un texte ou quand je dis un texte ou quand quelqu'un dit un texte que j'ai écrit et qu'en face ou à côté, en haut ou en bas, ben il y a des gens quelque part qui sont portés vers quelque chose de profond et que cette parole là le fasse lever la tête vers le haut, tant mieux. Si cette parole-là, s'ils sont en train de s'endormir, s'ils sont en train de dépérir dans un coin, et que cette parole-là peut leur amener un morceau d'espoir, c'est là où moi je me sens utile, je me sens nécessaire. On te parlait du rôle du poète. Je crois que trop souvent on a mis la poésie dans un coin. Avec plein de fils d'araignée en disant que voilà, la poésie c'est le parent pauvre de la littérature. Donc je crois que de tout temps, la poésie a toujours fait battre le cœur des civilisations. Et que je ne sais pas si c'est dû au fait que les gens cultivent de plus en plus l'attribution des prix, le roman, etc. Non, chaque forme d'expression a ses exigences et mérite du respect. Et je crois que trop, il y a un discours qui consiste à dire que il est facile d'écrire la poésie. Alors tout dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de laisser parler son cœur avec comment dirais-je, avec émotion, en y mettant les sentiments les plus forts. Bon, oui, je crois que c'est un exercice important pour chacun d'entre nous, parce que ça nous permet de nous abolir de certaines souffrances, de certaines choses qui sont lourdes à porter. Mais moi, quand je parle de poésie, je parle de rythme, je parle d'esthétique, je parle de recherche, je parle de sonorité, de musicalité. Et je crois que la langue française a porte ça en elle, quand les poètes prennent le temps de s'en emparer, la langue créole également. De même que Pablo Neruda fait sonner l'espagnol et bien d'autres. Mais je crois que un feu, on ressent l'incandescence d'un feu quand ce feu-là, il est réellement vivant. Et quand je parle de vivant, je veux dire par là que quelqu'un a pris le temps de concevoir ce feu-là. Il a planifié, il a réfléchi à comment mettre le feu quelque part. On n'a pas toujours besoin d'allumettes pour mettre le feu quelque part. Et je pense que la transmission de cœur à cœur, ça me donne l'image, tu vois, des deux pierres que des roches ou quoi coin. Ben là aussi, dit fait Pélimain.
Ouais. Et aussi l'exigence de vérité inhérente à la poésie, l'exigence d'authenticité.
Oui, je crois que un poète qui triche,
ça fonctionne pas.
Ça fonctionne pas.
Ça fonctionne pas. Ça peut pas fonctionner.
Non, c'est-à-dire que il y a quelque chose. Je dirais que la chair, on ne peut pas tricher avec la chair. On peut tricher avec la peau. On peut se décolorer. On peut intervenir sur la peau, sur la forme, mais ce qui est en dedans, tôt ou tard, de toute façon, ce qui n'est pas authentique, ce qui n'a pas de fondation réelle, tôt ou tard, ça se casse la gueule, quoi.
Alors, tout à l'heure, entre nous parlions des rapports entre l'oralité et l'écriture. Ouais. Et tu me disais que un poème, la langue créole sonne particulièrement belle à l'oreille, mais qu'un poème, justement, on n'avait pas forcément le même jugement de valeur en le lisant et en l'écoutant dit, bien dit.
Oui, non, non, mais c'est... Je crois que...
Mais est-ce que la poésie, elle n'est pas située, de par son essence, à ce carrefour entre l'oralité et l'écriture ? Parce que la poésie, c'est la musique des mots, et la musique des mots, eh bien, bien sûr, on peut la retrouver en la lisant, mais c'est à haute voix qu'il faut la lire.
Oui, il y a une partition, et puis bon, voilà. Celui qui dit donne vie aux mots.
Il y a le rythme du tambour.
Oui, non, mais...
Aimes particulièrement.
Non, mais je crois que... Il y a quelque chose de particulier dans le créole, c'est une langue très métaphorique. Et je ne sais pas si c'est l'influence du tambour, mais il y a une sonorité, il y a des plaquages dans la sonorité du créole. Parce que c'est là où je parlais de recherche et d'esthétique, etc., de sonorité, musicalité, il y a des sons dans le créole qu'on ne retrouve pas dans d'autres langues, tu vois. De même que écouter Cheo Feliciano en train de chanter l'espagnol, il y a quelque chose de particulier. Chaque langue a quelque chose de particulier.
La langue, c'est l'âme d'un peuple.
Ah ouais, mais moi je peux te dire que plus l'âme est vibrante et forte et vivante, plus la langue s'en ressent. Donc je me dis, bon, maintenant, j'estime que la langue créole est une jeune langue et qu'on est en laboratoire. Nous sommes en laboratoire et que l'important, c'est continuer à croire que les recherches, ceux qui font des recherches, tout ça qui a matché, tout ça qui a permis de créole à vivre, eh bien, qui a fait créole avancer, manque à quoi ça, hein? Et donc, moi, je suis content qu'il y ait des débats, qu'il y ait des polémiques. Je suis content parce que ça veut dire qu'on a matière. Ah oui, ça veut dire qu'on a matière.
Le jour où il n'y a plus de polémique.
Ah ben, mon vieux.
C'est un truc poussiéreux, c'est un truc mort.
Par contre, c'est important qu'il y ait du respect, tu vois.
Oui.
C'est important. Moi, je crois que. Sans respect, il finit par avoir la guerre. Mmh. Et la guerre, chacun d'entre nous sait très bien les conséquences des guerres. Hein. Donc, moi, je crois vraiment, hein, les langues valent la peine qu'on se donne pour elles.
Eh bien, nous allons revenir pour déguster les mangos verts de la poésie de la poésie d'Éric Pezeau avec un extrait de Portraitude, donc ouais. le dernier recueil de poèmes où on trouve d'ailleurs des poèmes en créole et en français. Éric.
Nestor, vie kabou et toi oul qui toujours cherche cadence doucine la vie, mid loa la consa, en bas jol monan. Portez mon neve pour bailan, mais monté en didan koui l'espoir, mid loa la, gloa nous bisouen, mid loa la, en coco des yeux. Mettez outils au fil à plomb, pour plonger en didan vente la tête, pour check la délivrance. Nestor, vie kaboué toi oul, qui toujours cherchait cadence doucine la vie, semblait chaque régime force et puis courage, qui m'a ôté en dit d'encore. Songez vivi, songez son, vaillant tridenté, vaillant coute lacet, mauvais grain la vie, dépocholé. Nestor, où ces derniers malzécal font briller, mi d'loa là, d'loa nous besoin, hein? Mi d'loa là, en coco des yeux. Si porter pour si porter, Nestor, Vie kabouré trois roule qui toujours cherchait cadence douce la vie. Mouillé sans la devenne pour chalvirer la ligne fond brûlé. Souple Nesto. Souple Macamandeo.
Alors il faut dire que Portraitude, en fait, c'est un peu comme une galerie de portraits, mais pas de gens connus, des portraits des gens de la Martinique, Fondoc, des pêcheurs, des paysans, des personnages de chez nous.
Oui, c'est-à-dire, c'est une galerie de portraits, pas de vedettes. Au terme où on l'entend actuellement de people, là ce sont des gens réels avec leur vérité, leur réalité, leur authenticité, leur simplicité, mais des gens qui ont au quotidien un aura, un talent de la vie. Je veux parler d'hommes et de femmes comme le fossoyeur qui a une fonction primordiale dans la société martiniquaise. Quelqu'un qui, parce qu'on a un rapport à la mort et aux morts, bon, dernièrement c'était la Toussaint, et je connais un fossoyeur qui a à peu près le même âge que moi. Ça peut paraître surprenant. Parce que la plupart du temps, les fossoyeurs ont un peu la réputation de l'âge, la réputation, comment dirais-je, de l'expérience. Et donc, la plupart du temps, on identifie un fossoyeur à un homme d'un certain âge, etc. Et quand on rencontre ce fossoyeur-là, qui a une quarantaine d'années, la rencontre est belle. Pourquoi elle est belle? Parce que ce sont des... Bon, tout à l'heure, on parlait de passeurs de rive, mais ce sont des passeurs de rive. Mmh. Ce sont des gens qui prennent la responsabilité du corps des défunts, de les mettre en terre, de les faire passer de, je ne dirais pas, de la terre à la sous-terre, c'est-à-dire de, quand on dit qu'un jour pour naître, un jour pour mourir, ces gens-là, ce sont eux, en tout cas le fossoyeur, c'est lui qui est le passeur, celui qui mène à l'autre rive. Et c'est une fonction, je trouve, qui est belle parce que quelque part, il prend soin d'emmener le mort vers ce que beaucoup d'entre nous ignorons et aimerions savoir, d'où le mystère de l'existence et le questionnement sur y a-t-il une vie après la mort, etc. Donc tout ça, je trouve ce jeu, ce rapport à cet homme, à sa fonction, très particulière, et il y a une poésie du passage. Et je trouve ça vraiment super.
C'est un très vieux mythe, le mythe de Charon dans l'Antiquité grecque. On lui donnait une pièce, une obole, et il transportait les âmes jusqu'au royaume des morts en leur faisant traverser le Styx. C'est quelque chose de très ancien. Alors, le poète dans tout ça, ça serait le porte-parole des gens de sa tribu. Je crois que Portraitude, ça illustre ce rôle magnifique du poète au milieu, mm-hmm. au milieu des gens, au milieu des êtres humains avec lesquels il partage son existence. Et il est ce porte-parole, ce griot.
Oui, absolument. Je crois que le poète n'est pas celui qui se retrouve assis ça peut lui arriver dans les hautes sphères de l'intelligentsia, les hautes sphères politiques, économiques, etc. Les gens de pouvoir, mais le poète est un homme de pouvoir parce qu'il peut donner la vie, il peut
faire des révolutions.
Il peut aider les gens à il conscientise son peuple, il il magnifie son peuple, son pays, son environnement. Et donc, oui, je crois que cette fonction-là, elle est, je ne sais pas si elle est toujours bien perçue, parce que les gens n'aiment pas trop que l'on mette en lumière ce qui ne va pas, soit dans leur vie ou dans leur politique ou dans leur travail, dans leur façon de vivre, dans leur vie tout simplement. Mais le poète et c'est pour ça que beaucoup de poètes, en tout cas à une époque, étaient fusillés, étaient réduits au silence, physiquement.
Le pouvoir a toujours craint le contre-pouvoir des poètes.
Absolument, parce que le poète meurt, mais ses mots demeurent. Et donc, je crois qu'il y a cette intemporalité de l'écrit du poète qui fait que, à différents moments d'un siècle, différents moments d'une vie ou de dans l'histoire d'un pays, eh bien, les textes de d'Hugo, les textes de Mallarmé, les textes d'Apollinaire, les textes de gens qui nous sont, bon, je dirais, plus proches, de Prévert, des textes, le poète est... Je compare parfois le poète à un magicien, qui a à cette capacité à magnifier le banal, magnifier le méprisable, ou ce que c'est-à-dire que quand le poète touche à quelque chose, quand il met sa touche sur quelqu'un, sur quelque chose ou quelque part, il y a une auréole, il y a une lumière, il y a une illumination. Il y a une illumination. Et je crois que beaucoup de systèmes politiques, je pense à l'Argentine, je pense à l'Uruguay, je pense à pas mal de pays de l'Amérique latine.
Le Chili.
Le Chili. Oui. Et l'Afrique. Oui. L'Afrique, la Caraïbe, la France, l'Europe, la cible, je crois que l'une des cibles favorites, et on comprend très bien pourquoi, des gens de pouvoir, notamment politique et économique, les deux sont liés. Mais le poète, j'en veux pour preuve l'époque de la mine. Quand on voit, je me souviens plus du nom du héros de la mine dans le Nord avec Renaud.
Zola.
Émile Zola.
Émile Zola, oui.
Eh bien, quand on voit le pouvoir qu'a les textes de Zola, on comprend mieux. La fonction et le pouvoir du poète dans une société. Et je crois que c'est là où le poète a une manière de tisser des liens qui fait qu'ils se sont proches de ceux qui souffrent, de ceux qui sont victimes d'injustice ou tout simplement de ceux qui, quelque part, sont en train de perdre vie.
C'est un hypersensible, un poète.
C'est
un écorché vif aussi.
Oui.
Des fois, il le paye cash.
Ah oui, ça c'est clair. Et c'est pour ça que, pour ma part, il est très important d'essayer de faire un travail sur soi, si c'est possible. À certains moments, je pense qu'il est important de prendre conscience de ça et de ne pas être victime des émotions. De ne pas se laisser diriger et contrôler par nos propres émotions. Mais le poète, sa chair, c'est un homme d'émotions. Mais pour ma part, c'est vrai que souvent, bon, nous sommes en société, on est appelé quelque part à se maîtriser, à faire en sorte que les moments que l'on partage avec les uns et les autres se passent dans la plus grande humanité, amitié, simplicité, sympathie, mais je ne pense pas que ça soit toujours, et je ne souhaite pas que ça soit toujours possible. En tout cas personnellement, ce n'est pas mon rôle d'être dans le compromis permanent, d'être dans le silence ou dans la compromission. Hein.
Alors, il y a une chose que on n'a pas abordée par rapport justement à cette oralité du créole, c'est l'émergence d'un mouvement que tu dois connaître qui s'appelle le slam. Émergence qui s'est faite aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, mais qui s'est faite en France métropolitaine il y a environ un an avec des gens comme Grand Corps Malade, et qui se fait maintenant en Martinique et en Guadeloupe d'ailleurs. J'aurais aimé que tu nous dises ton sentiment par rapport à ce slam, l'approche que tu en as, et puis ce que ça peut apporter au devenir de la langue créole et à l'immersion des tout jeunes poètes dans cette langue-là.
Ben, écoute, moi, il y a trois choses importantes par rapport au slam, ou par rapport à toute autre émergence de mode d'expression. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans la mesure où, premièrement, ça permet à des hommes et des femmes, ça permet à des gens d'exprimer leur vision, leurs sentiments. Parce qu'ils font partie, eux aussi, ce sont ils sont vivants. Donc, le slam, j'encourage les gens à réfléchir sur ce mode d'expression, dans la mesure où c'est vrai que ça peut paraître être une mode, et à travers la mode, deuxièmement, ça c'est mon deuxième point, il y a toujours une frontière entre tout ce que le slam va apporter comme nourriture au créole. Et je crois que le slam, en fait...
Parce que la langue créole se prête vraiment très très bien à cet exercice de poésie a cappella, sans fioritures, artifices.
Absolument.
Et presque à la limite de l'improvisation. Quoique il y a beaucoup de textes écrits et d'une grande qualité.
Absolument. Mais là, ce que je disais, c'était un peu ça. C'est-à-dire que les slameurs me font penser en fait à une poésie où la rime en fait était très à la mode. Et on retrouve beaucoup dans le slam cette musicalité de la rime. Seulement là où en fait je m'interroge, c'est est-ce que ce ne sera qu'une mode? Et je vais plus loin, c'est-à-dire que...
Je dirais que c'est plutôt un mode d'expression d'une certaine jeunesse qui a été nourrie par le rap.
C'est-à-dire que bon, quand j'entends les slameurs, ça me fait penser aux dub poètes de New York.
La dub poetry, ça existe à côté du slam, il suffit de rajouter de la musique et on est dans la dub poetry.
Absolument, mais ce que je veux dire par là, c'est que aussi... toute bonne chose devient danger dans la mesure de tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Parce que par exemple, j'ai vu à la télévision Grand Corps Malade, je n'étais pas le seul à être bouleversé par ce texte. Parce que il y a une poésie, il y a une force des mots.
Une authenticité, des émotions.
C'est pour ça que je dis que tant que le slam sera porté par des gens qui vont chercher à l'enrichir, à le tirer vers le haut, Moi, j'encourage, je suis preneur à 100%.
Oui, parce que c'est avant tout l'expression d'une expérience immédiate de vie. C'est oui. Le slammer est quelqu'un qui parle sur ce qui l'entoure, sur ce
oui.
qu'il perçoit du monde.
C'est-à-dire que là aussi, il y a une distance à prendre. C'est-à-dire la spontanéité à cette dimension de l'authenticité. Mais tu vois, un peu comme le rap, je me dis, ok, il est important de faire attention à l'utilisation que l'on fait du slam, parce que le rap à un moment a été devenu, il y avait une sorte de stéréotype dans le rap où tous les textes la plupart des textes étaient porteurs d'une forme de violence tournée. C'est-à-dire, j'avais l'impression d'une forme de répétition, ce qui, quelque part, était un peu fatigant, mais que sans raison apparente, on pouvait devenir un rappeur. Et autrement dit, je peux avoir une belle écriture sans avoir cette expérience personnel, par exemple, de la, parce que bon,
la coquille d'escargot vide.
Bon, voilà, c'est un peu ça que je vois comme danger. Autrement, non, j'encourage fortement tous ceux qui ont envie de slammer. Même moi, je me suis quelque part, même sans y avoir porté une attention particulière, dans certains textes, sans qu'on y fasse gaffe. Eh bien, on se rend compte qu'il y a un jeu de sonorité, une musicalité absolument extraordinaire. Je sais pas si c'est la magie de l'inconscient, mais bon, le slam pour moi, s'il permet une décompression, s'il permet d'évacuer, par exemple, tu vois, dans l'actualité, on insiste lourdement sur beaucoup de la violence, on associe souvent les jeunes à la violence, mmh. etc. Mais je ne crois pas que la violence soit l'apanage des jeunes. Hein. La violence, elle est quotidienne, elle est au travail, elle est partout. Et tout à l'heure, on parlait de maîtrise. Et c'est là où, par exemple, dans le slam ou dans la poésie, on a besoin d'une dimension spirituelle. Moi, personnellement, je suis convaincu que la rencontre entre poète ou entre homme avec un grand H, elle est belle quand on s'abolit de la lourdeur, de la barrière, de la peau, etc. Avant tout, on rencontre un homme qui a une histoire, qui a une culture, etc. Mais il y a la culture de la rencontre. La rencontre et de l'échange, et là, l'homme se grandit, l'homme s'enrichit. Bon, après, je pense que chacun, on a des personnalités, on a des atomes, on s'entend plus ou moins bien avec certaines personnes, mais avant tout, la rencontre sans préjugés, je crois que c'est là où la poésie permet aussi à cette magie, là où la poésie opère sa magie, c'est de permettre à des hommes qui ne parlent pas forcément la même langue, eh bien de créer une langue nouvelle, la langue de la rencontre, la langue où on se respecte parce que on a pris conscience que avant tout cherchons à nous accueillir plutôt que de nous éliminer, quoi, tu vois.
Eh bien, j'espère que nos auditeurs auront apprécié toute la richesse de la rencontre avec Éric Pézeau, un poète de chez nous, ô combien. Et on va peut-être terminer peut-être avec un petit poème. C'est la plus belle manière de conclure. Je vous rappelle donc vendredi 10, c'est-à-dire demain soir à 18h30, vous avez la possibilité d'aller écouter Éric Pézeau présenter Portraitude en compagnie de Jocelyne Fortuné et Roland Pavilla. Ne le manquez pas, ça vaut le coup. Et puis moi, je vous donne rendez-vous donc dans une semaine, jeudi de 17 à 18 heures. Et nous aurons le plaisir d'accueillir un autre troubadour de chez nous et bien de chez nous. Il s'agit de Christophe Rangoli. Voilà, donc nous nous quittons sur un poème d'Éric Pezeau et une petite musique de la de Parolka.
L'espoir. Des petits pointettes marées, des petits pointettes marées serrées, des petits pointettes marées serrées caparées, des petits pointettes marées serrées caparées graines, des petits pointettes marées serrées caparées graines d'ifé, des petits pointettes marées serrées caparées graines d'ifé en ballant main soleil pour aider pipiri bail du vent en